ton nom puissant et précieux, nous avons ainsi prié. Amen.
Voilà. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes, comme je l'ai dit, sur le Temple de Dieu, la chaîne chrétienne sur le web templedediu.com. Nous commençons une série d'enseignements avec le docteur Samuel Wabantu, qui est basé à Paris. Le thème que nous allons exploiter avec vous, c'est les deux sémences de Dieu. Prenez vos Bibles et nous allons lire le passage qui nous intéresse. Nous allons tirer cet enseignement. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 13. Nous allons avoir une assez longue lecture, mais nous ne lirons pas tout. Je vous laisserai le soin de noter ces versets. Vous lisez, vous écrivez Matthieu chapitre 13, à partir du premier verset. Jusqu'au verset 30. C'est dans ce passage d'Écriture que se trouve toute notre histoire. Matthieu, chapitre 13, du premier verset au verset 30. En vérité, il y a deux paraboles dans ce passage de Matthieu. C'est dans ces deux paraboles que nous tirons cet enseignement sur les deux sémences de Dieu. Nous, c'est une série d'enseignements, nous allons progresser. Nous aurons une partie aujourd'hui, une autre partie la semaine prochaine. C'est possible que nous puissions avoir deux émissions la semaine prochaine, le mercredi à la même heure et probablement le vendredi à la même heure, selon que nous allons accorder avec le régime de templedediu.com. Cette même histoire, vous pouvez également la lire dans l'évangile de Marc. Pour la première partie, dans Marc chapitre 4, verset 1 à 20, vous pourrez également lire dans Luc chapitre 8, verset 4 à 15. Ce sont des évangiles synoptiques, donc ces trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, se complètent dans la manière de raconter la même scène, la même histoire, chacun ayant reçu une partie de la révélation. Et quand nous mettons cela ensemble, nous avons nous pouvons saisir la révélation de manière plus globale et plus complète par rapport à cette histoire. Voilà, si vous êtes prêts, prenez vos Bibles. Bien sûr, nous allons commencer la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 13, à partir du verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole, noté en parabole, sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et à celui qui sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Nous sautons, nous allons directement au verset 18, l'explication de cette parabole qui est appelée la parabole du semeur et du terrain. Le verset 18, dans la maison, vous pouvez lire tout ce passage, tous les versets qui suivent, de 12 jusqu'à 17, mais nous allons directement au verset 18, l'explication. Là, c'est Jésus qui parle, quand il dit, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans leur cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Notez infructueuse. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Nous arrêtons là pour le moment. Cette première partie, bien cette première parabole que Jésus partage avec la foule qui était rassemblée pour écouter sa parole, concerne la première semence. Notre thème, c'est les deux semences de Dieu. Donc, nous parlons de l'une des semences. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ est sorti un jour, comme c'était dans son habitude. Il prêchait, il parlait, il faisait beaucoup de miracles. Et un jour, il est sorti de la maison où il était, et il est allé au bord de la mer, et une grande foule s'est assemblée autour de lui. Une fois de plus, il est monté dans une barque. Pareil comme dans Luc chapitre 5, il était monté dans la barque, mais cette barque-là appartenait à Simon Pierre. C'est comme ça qu'est passée la rencontre de Simon avec Jésus-Christ. Jésus est venu prêcher, il est venu, il avait une foule, il avait envie de prêcher, il avait le besoin de prêcher, mais à cause de la foule, il ne pouvait pas prêcher juste au bord du rivage, la foule le pressait. Il a demandé la permission à Pierre s'il pouvait embarquer dans sa barque. Et il s'est éloigné un peu du rivage et a commencé à prêcher. Il a utilisé la barque de Pierre comme l'estrade par où il pouvait parler à la foule. Et cette fois-ci, ça, c'était plus la barque de Pierre, c'était une autre barque. Et Jésus était là avec les disciples. Il a commencé à prêcher à la foule qui était réunie autour de lui, assoiffée d'écouter la parole. Et beaucoup, bien sûr, venaient par curiosité parce qu'ils avaient vu les miracles que le Seigneur accomplissait. Et beaucoup encore venaient, comme Jésus avait dit, les gens le suivaient parce qu'ils avaient mangé du pain. Il y avait toujours des surprises là où se trouvait Jésus-Christ. La parole était enseignée, les miracles s'opéraient, les mystères du royaume de Dieu étaient expliqués. Jésus-Christ manifestait la bonté, la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui marchait dans les rues, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Et les gens accouraient de partout. Alors Jésus-Christ, quand il s'est mis au moment de prêcher, cette fois-ci, il déclare, Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. C'est quoi des paraboles? Les paraboles sont des histoires qui servent de comparaison pour transmettre une vérité, une réalité spirituelle. Les paraboles sont des réalités imagées. Ce sont des vérités qui sont cachées dans un récit sous forme d'images, de symboles pour expliquer une réalité spirituelle. Des fois, le Seigneur prend exemple sur les choses de la terre pour expliquer les réalités plus profondes qui concernent la vie spirituelle, les choses spirituelles, bien les choses du royaume. Parce que Jésus-Christ avait dit un jour à ses disciples, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses de la terre, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses des cieux? Alors, Jésus-Christ utilisait de manière allégorique les choses de la vie courante et les gens en s'imaginant ce que Jésus-Christ parlait comme si c'était dans la réalité de leur vie et ils pouvaient aller un peu plus loin pour comprendre les réalités spirituelles, bien sûr, qui sont invisibles et qui n'appartiennent pas obligatoirement à notre monde. Et Jésus-Christ leur parla en parabole. Il a donné plusieurs paraboles. Nous retiendrons deux paraboles pour cette série d'enseignements qui concerne les deux semences de Dieu. Là, c'est la première parabole. Verset 4 de Matthieu 13 dit, « Un semeur sortit pour semer. » Point. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Nous voyons un semeur qui est sorti, pas pour aller à la pêche. Un semeur n'est pas sorti pour aller au marché. Mais nous voyons que ce semeur est sorti pour faire ce pour quoi il est qualifié. Un semeur est sorti pour s'aimer. On nous met un point. Donc c'est quelqu'un de qualifié qui sort pour faire ce pour quoi il est qualifié. Il sort pour faire son travail. Un homme qui connaît son travail, il sort pour faire son travail parce qu'il est qualifié pour cela. Et la suite de ce verset dit, comme il s'aimait, donc comme il faisait son travail, cette personne qualifiée, comme il faisait son travail, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et cet homme qualifié, avec toutes ses qualités, est sorti avec quelque chose dans ses mains, c'est quoi? La semence. Quand il a pris la semence et il l'a jetée. Quelqu'un de qualifié, deux, avec ce qui est dans ses attributions, la semence, quelque chose qui s'est utilisé, qui s'est manié, quelque chose qui entre tous les jours dans son travail. Le travail qu'il fait, c'est de semer. Et à un moment, il vient pour moissonner, bien sûr. Et il a fait cette semence, il sort pour s'aimer. J'aimerais insister là-dessus. On lui dit, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Nous comprenons déjà par la suite de l'histoire que ce n'est pas ce à quoi s'attendait ce semeur. Donc il y a un problème dans la suite de l'histoire. Une personne qualifiée sort pour faire le travail pour lequel elle est qualifiée et il a ce qui est nécessaire à ce travail, il a les semences. Quand nous lisons plus loin dans Luc, la même histoire, mais dans Luc chapitre 8, Matthieu 13 nous dit une partie de la semence tomba, Matthieu 13, verset 4 dit, un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais Luc nous parle de l'intervention de deux éléments qui ont empêché cette semence de porter du fruit. Si vous allez rapidement dans Luc, le chapitre 8, Matthieu nous parle des oiseaux qui ont mangé la semence. Le semeur n'est pas sorti pour nourrir les oiseaux. Il est sorti pour semer. Mais quelque chose arrive, c'est quoi? Les oiseaux ont mangé la semence. Et Luc va plus loin. Luc, chapitre 8, verset 5, écoutez, il dit, un semeur sorti pour semer sa semence. Le semeur et sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulé aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Or, il y a deux interventions, des deux éléments différents. Matthieu ne parle que des oiseaux, mais Luc précise, dit que, premièrement, il y a les hommes qui ont foulé aux pieds, qui ont écrasé la semence, et ont tué la semence et ne pouvaient pas produire du fruit. Deux, les oiseaux du ciel sont venus manger cette semence. Du coup, la semence n'a pas porté du fruit. Quand nous avons lu avec vous, jusqu'à la fin de cette histoire, cette parabole, nous comprenons que il y a eu quatre terrains. En lisant, on nous parle du premier terrain qui est le long du chemin. Deux éléments ont intervenu. On a foulé au pied la semence et les oiseaux ont mangé. Cette partie de la semence n'a pas produit du fruit. Deuxième terrain, on a cité qu'une partie tomba dans les endroits pierreux, dans Matthieu 13, verset 5. Là aussi, la manière, la suite de l'histoire de cette semence, à la fin, nous voyons que cette semence n'a pas pu produire du fruit. On nous a dit que le soleil a paru et il a été brûlé. Le troisième terrain, on dit qu'une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les touchèrent. Et cette semence n'a pas pu porter de fruits qui sont arrivés à maturité. Les épines l'ont rendu infructueux. Attendez donc, trois terrains différents, le bilan est zéro, négatif. Ce n'est qu'au quatrième terrain, sur le quatrième terrain, on dit une partie tomba dans la bonne terre. Le quatrième terrain, on l'a appelé la bonne terre. Ce n'est que sur cette bonne terre-là qu'on a vu la semence grandir, porter des fruits. Un grain en a donné 100, un autre grain a donné 60, un autre grain a donné 30. Alors, je reviens sur ce que j'ai insisté auparavant. Nous voyons qu'un homme, une personne qualifiée, le semeur, il sera pour faire ce pour lequel, pour ce pourquoi il est qualifié, semer. Et il apporte la semence. Dans l'explication, je vous dis que la semence, c'est la parole. Il dit, quand quelqu'un écoute la parole, donc, la semence qui est la parole. Le semeur avec sa semence. La parole, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Dieu est le semeur ici. Et la première semence de Dieu, c'est la parole. Dans cette histoire, cet enseignement sur les deux semences de Dieu, le semeur reste le même, c'est Dieu. Dans la première parabole, la semence que Dieu a utilisée, c'est sa parole. J'aimerais que vous puissiez réfléchir avec moi et que le Saint-Esprit nous pousse un peu plus loin dans la compréhension des Écritures. Dieu est qualifié. Le semeur, il fait ce qu'il sait faire. Dieu a toutes les capacités nécessaires. Dieu est tout puissant. Il est omniscient, omnipotent. Dieu est puissant. Il est tout puissant. La semence qui est la parole de Dieu, elle est également toute puissante. Mais nous remarquons que la semence qui est puissante, venant de quelqu'un de qualifié, de tout puissant, cette semence n'a pas porté de fruit partout où elle est tombée. Le résultat de la semence dépendait du terrain où elle est tombée. Le Saint-Esprit veut nous enseigner ceci. Beaucoup de gens pensent, et j'entends beaucoup de prédicateurs dire, si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, si Dieu envoie la parole dans ta vie, peu importe ce qui va arriver, ce que Dieu déclare s'accomplira obligatoirement. Et ce que Dieu veut faire, ça s'accomplira. Mais nous voyons ici que, dans cette parabole, la parole de Dieu qui est la semence n'a pas porté de fruit à maturité partout où elle est tombée. La semence et son avenir, et son développement, dépendait du terrain où elle est tombée. Elle ne dépendait pas de Dieu qui est tout puissant. Elle ne dépendait pas d'elle-même qui transforme en elle la vie. Mais le terrain où la semence tombait faisait que cette semence pouvait être fructueuse, ou bien la même semence devenait infructueuse. Imaginez la parole puissante de Dieu devenir infructueuse par rapport au terrain où tombe la semence. Nous ne pouvons pas parler, mettre en cause le semeur. Le semeur est puissant parce que nous vivons dans le monde qu'il a créé. Tu peux être dans ce monde, utiliser la force, le souffle de vie que Dieu te donne pour insulter Dieu. N'empêche, même si tu l'insultes ou tu dis que Dieu n'existe pas, tu es un athéiste, tu m'entends? Tu es dans le monde que Dieu a créé. Le monde dans lequel nous sommes est le produit de la création. Et tous les scientifiques sont d'accord que l'univers est le produit de la création. Quelqu'un a dit un peu de science est loin de Dieu, mais beaucoup de science ramène vers Dieu. Je crois que c'est Blaise Pascal. Je ne vais pas m'étaler sur les lois de la physique ou la physique quantique, peu importe, mais on vient de faire des découvertes actuelles très poussées sur la physique, sur la définition de l'univers, ses origines, sa création. Ils sont arrivés à cette conclusion. Là, nous voulons parler un peu du semeur. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ils sont arrivés à la conclusion que il est possible de créer la matière à partir de rien. Et que l'univers matériel tel que nous voyons, la matière, l'antimatière, tout ce qu'il y a dans l'univers, scientifiquement, par rapport aux études qu'on a fait actuellement, ils sont arrivés aux conclusions que ça a été créé à partir de rien. Ce qu'ils découvrent maintenant, c'est ce que la Bible a toujours annoncé depuis le commencement. Au commencement, Dieu créa. Bereket Elohim Bara. Donc, dans les temps les plus anciens, les plus reculés, Elohim, Dieu, celui qui est puissant et plein de majesté, créa. Créer Bara en hébreu, c'est-à-dire appeler du néant quelque chose pour venir à l'existence. Là, déclare que Jean chapitre 1 verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Hébreux chapitre 11 verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé ou créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dans les scientifiques, découvre aujourd'hui, au 20e siècle, ils ne pouvaient pas déterminer cela, mais au 21e siècle, avec les études actuelles, ils découvrent que l'univers a été créé à partir de rien, à partir du néant. Et deuxième conclusion, c'est quoi? Ce qui a créé l'univers, non seulement c'est le néant, ça vient à partir du néant, donc ce n'est pas de la matière qui a créé, mais c'est en dehors de l'univers. Ce qui a créé, qui a provoqué le Big Bang originel, selon eux, ne fait pas partie de l'univers, c'est en dehors de l'univers. C'est ce qui nous a toujours été enseigné dans la Bible. Dieu est séparé de la création. Dieu est saint. Kodesh, saint veut dire séparé d'eux. La Bible a toujours mélangé. Pendant que tous les autres peuples confondent le Créateur avec ses créatures. Les Romains, les Grecs, les Indiens, les Chinois, peu importe, les Africains. Mais dans la Bible, la révélation qui vous a été donnée, Dieu a toujours été séparé de la création. La science aujourd'hui rejoint ce que la Bible nous a toujours dit. Donc même si tu contestes l'existence de Dieu, la science prouve qu'il y a quelqu'un, il y a une entité qui est en dehors de l'univers, qui a créé cet univers et il l'a créé à partir du néant. Exactement dans les mêmes termes que la Bible nous dit. Deux, la semence elle-même, et la Bible déclare, même si tu ne crois pas à Dieu, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand nous les considérons dans ses œuvres. C'est-à-dire que quand nous regardons ce que Dieu a créé, nous comprenons qu'il y a un créateur merveilleux. L'univers ne peut pas exister par hasard. dans la grandeur, même dans la petitesse, quand on analyse l'atome, quand on analyse une cellule, quand on analyse un fœtus qui grandit pour devenir un enfant, un être humain, on ne peut pas dire que tout ça, c'est le produit du hasard. Il y a un créateur. Il y a un être intelligent. Les gens parlent même des extraterrestres qui auraient créé. Moi, je dis oui, Dieu est extra. Il est en dehors de la terre. Kodesh, il est saint. C'est le Dieu suprême, l'unique Dieu qui a créé. La semence également est puissante parce que c'est la parole. Et c'est cette même parole qui a créé l'univers. C'est la parole qui a créé. Dieu dit là que la lumière soit et la lumière fut. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu a parlé pour que les choses soient créées. Dieu parle, bing et bang, le monde a été créé. C'est ça pour moi ma théorie du Big Bang. Alors, Dieu qui a créé, qui a parlé, avec cette même parole qu'il a utilisée pour créer l'univers, mais on voit que la parole puissante, créatrice, n'a pas le résultat escompté partout où elle passe. Que dans certains terrains, cette parole puissante, venant de créateurs puissants, ne produit pas les fruits escomptés. Et ça pose un problème aujourd'hui. Quand nous regardons ce que Dieu déclare, et nous regardons la vie des gens qui viennent à l'église, nous regardons le monde, nous regardons la vie des serviteurs de Dieu, nous regardons tous ceux qui se réclament étant de Dieu, venant de Dieu, nous voyons que dans leur vie, les choses qui arrivent sont contraires à ce que Dieu a déclaré. Dieu parle de promesses, vous êtes tiré la tête, mais on le voit tirer la queue, ils sont toujours les derniers. Dieu dit, vous êtes bénis, mais on voit visiblement la malédiction s'attacher à la vie des gens, pourtant qui viennent à l'église. Dieu dit que vous êtes saints, mais on voit les gens vivre dans des péchés ignobles, comme Paul était obligé de censurer les gens de Corinthe, dans la Bible. On voit une différence entre ce que Dieu dit et ceux-là qui reçoivent cette parole. Il y a une différence. Pourquoi? Parce que la performance, l'efficacité de la parole dépend du terrain. Cet enseignement sur les deux semences a pour but de t'aider à déterminer, à comprendre quel type de terrain tu es. Par rapport au type de terrain que tu es, c'est de là que dépendra le résultat de la parole dans ta vie, si elle portera du fruit, ou bien si elle sera infructueuse, si elle mourra et tu resteras la même personne sans avoir bénéficié des bienfaits et des grâces de Dieu. Donc aujourd'hui, nous parlerons principalement du premier terrain. Nous allons étudier ce premier terrain. Quelles sont les caractéristiques de ce terrain? Nous connaissons déjà les résultats de ce terrain. Ce terrain n'a pas donné de fruits. Si nous pouvons faire un bilan rapidement, les statistiques de ce travail du semeur avec sa semence, nous remarquerons que 75% dans le 1, le 3 quarts, nous prenons la semence, nous le divisons en 4 parties. Donc, les quatre terrains, après avoir semé, les semeurs s'accordaient, étaient vides. La semence est divisée en quatre parties. La première partie qui est tombée le long du chemin, n'a pas porté de fruits. Donc, le un quart est perdu. Deuxième partie, tombée dans les endroits pierreux. Écoutez, le deuxième quart est perdu également. Deuxième quart de la parole puissante de Dieu perdu. Troisième quart tombé parmi les épines, perdu également. J'imagine la tête du semeur. Ce n'est que le dernier quart, le un quart de la semence qui est tombé sur la bonne terre qui a porté du fruit. Toutes les paroles, toutes les prédications que vous entendez dans la télévision, la Bible, les livres, par tout ce que Jésus a prêché, les apôtres ont prêché, les pasteurs prêchent, il n'y a qu'un quart de la parole qui est prêchée qui porte du fruit. Mais écoutez, dans le un quart qui porte du fruit, la Bible dit dans Matthieu, chapitre 13, le verset 8. L'Ebdeka, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. C'est-à-dire que même dans le quart qui a porté du fruit, tous les fruits n'ont pas été amatus, n'ont pas été rentables au même niveau. Il n'y a que le un tiers qui a donné le fruit à 100%. Il y a un fruit, il y a une partie qui a donné 100, une partie qui a donné 60, c'est déjà bon. Une autre partie a donné 30. C'est quand même bien, on pourra récolter. Dans le quart, il n'y a que le un tiers du quart qui donne le fruit au niveau que Dieu attendait. 100, un grain donne 100. C'est la perfection de ce qu'on pouvait attendre. Dans la plupart des paroles qui sont enseignées chez les chrétiens, chez les personnes qui entendent la parole est perdue et est infructueuse. La parole n'arrive jamais à maturité, ne produit pas du fruit et il n'y a aucun changement. Tu comprends mieux pourquoi ta famille se trouve dans l'état où elle est maintenant. Tu comprends mieux pourquoi ton église se trouve dans l'état où elle est maintenant. Tu comprends mieux ta propre vie, pourquoi elle se trouve dans l'état où elle est maintenant. Tu comprends pourquoi la nation dans laquelle tu vis, les choses se passent comme elles se passent maintenant. On peut voir des églises pullulées comme dans certains pays d'Afrique. On peut voir des églises partout, comme je vois un peu partout aux États-Unis quand je vais. Mais on voit des choses bizarres, ignobles, même des lois obscènes qui sont votées. Pourquoi? Parce que la parole qui est adressée, même aux enfants de Dieu, cette parole ne porte pas de fruits. Il n'y a que le un quart de la parole qui devient fructueuse. Et dans le un quart là, il n'y a que un tiers de ce quart qui atteint l'objectif ultime de Dieu. Donc, si nous voulons voir le changement dans nos vies, nous voulons voir le changement dans nos propres vies, le changement dans nos familles, nous devons demander quel genre de terrain nous sommes. Pose-toi la question, tu es quel genre de terrain? La parole ne change pas. Si elle a béni Job, la parole de Dieu peut bénir ta vie. Job a vécu le malheur, mais Dieu l'a restauré. Si la parole a béni David, si la parole a été puissante dans la vie de Samson, qui a délivré Israël de l'armée des Philistins, si la parole a été puissante avec Gédéon, et la promesse de Dieu, Gédéon a délivré Israël de Madian. Si la parole a été puissante avec Daniel, la gueule des lions a été fermée, avec Shadrach, Meshach, Abednego. Si la parole a été puissante avec Pierre qui a dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Si la parole a été puissante avec eux, cette parole doit être puissante également avec toi, parce que la parole ne change pas. Tout passera, mais ma parole ne passera pas. Le seul changement, c'est le terrain, là où tombe la parole. C'est ce qui fait la différence. Si la volonté de Dieu s'accomplira, si sa promesse, sa prophétie, le but pour lequel la parole a été annoncée, si elle s'accomplira ou bien elle ne s'accomplira pas. Ça dépend du terrain. Dans le premier terrain, écoutons les caractéristiques de ce terrain. On dit, une partie de la semence tomba le long du chemin. Le long du chemin. Les deux éléments ont intervenu. Matthieu 13 dit, Matthieu 13, verset 4, quand la semence est tombée le long du chemin, les oiseaux sont venus la manger. Et Luc chapitre 8, verset 5 dit, les gens sont venus fouler aux pieds, écraser cette parole, cette semence. Et les oiseaux, deuxièmement, sont venus manger. Quand Dieu envoie sa semence, notre terrain, c'est les champs. Ces champs-là, c'est nos cœurs. Et le Seigneur l'a dit clairement. Dans l'explication, Jésus a dit, Matthieu 13, 18, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence au long du chemin. Quand quelqu'un écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient. Oh, il y a un élément qui intervient. Souvent, nous croyons que quand nous écoutons la parole, nous ne la comprenons pas. C'est dû à la fatigue, ou bien des fois, c'est parce qu'on n'a pas bien expliqué la parole, ou bien c'est parce que, je ne sais pas, nous n'avons pas eu une révélation particulière, c'est pourquoi nous n'avons pas pu comprendre cette parole. Mais Jésus-Christ nous montre qu'il y a l'intervention d'une personne qui vient, et il ne vient que dans un seul cas. Cette personne ne vient que quand la parole n'est pas comprise. Et Jésus-Christ identifie cette personne. Il dit le malin, le diable, Satan. Chaque fois que la parole sort, j'aimerais que tu retiennes, là nous étudions le premier terrain, chaque fois que la parole sort, Satan guette la parole de Dieu. Il guette partout où on prêche la parole en vérité. Tout enfant de Dieu qui proclame, qui témoigne de Christ, sache que tu es guetté par l'ennemi. Toute église qui proclame la vérité, toute station chrétienne comme nous sommes dans le temple de Dieu, sache que tu es guetté. Tout ce qui sortira d'ici est surveillé par Satan parce qu'il connaît l'importance de la parole. 1, 2, Satan sait que la seule chose qui peut le vaincre, le détruire, le destituer, lui, c'est la parole. C'est la seule puissance qui détruit Satan, qui l'empêche d'agir. C'est pourquoi il surveille chaque fois que cette arme puissante est remise entre les mains des hommes, des créatures qui sont censées être faibles. Il a réussi à prendre le contrôle de leur ancêtre, Adam, pour dominer sur lui et soumettre toute la création. Et maintenant, la parole s'est faite chair, alléluia, Jean chapitre 1er verset 14, elle déclare, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Cette parole qui a un pouvoir et elle communique le pouvoir. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er verset 12, elle est venue chez les siens, la lumière qui est la parole. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Écoutez-moi la bonne nouvelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière, leur a donné le pouvoir de devenir. On devient ce qu'on n'était pas auparavant. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a le pouvoir de rendre de simples créatures et les transformer en enfants de Dieu. La parole transforme en enfants de Dieu. Ça veut dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous ne naissons pas en tant qu'enfants de Dieu. Nous naissons en tant que créatures de Dieu, au même titre que les arbres, les animaux. Mais la différence, c'est que nous avons la capacité de croire, de recevoir le salut. Et quand la parole vient, quand tu crois, la parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ainsi, tu n'es plus destiné à la perdition. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, celui qui croit en Christ reçoit la vie éternelle. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, 17. Vous comprenez? C'est la parole qui peut faire échapper un homme du contrôle de Satan. La parole peut changer la nature d'un homme. La parole peut donner à quelqu'un la victoire sur le diable. C'est là qu'il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez pourquoi le diable tremble quand la parole de Dieu est proclamée. Ce n'est pas quand on fait des longues prières, c'est la pensée qu'on est en train de faire passer aux gens. On peut prier sans connaître la parole. Bien aimé, les musulmans sont à un mois de Ramadan. Le Ramadan en Afrique, c'est facile. En Europe, c'est difficile, surtout quand ça tombe pendant l'été, parce que les jours sont plus longs que les nuits. Et j'admire leur courage. Ça veut dire que Le coucher du soleil, c'est à 17h, 18h plus tard en Afrique. Les gens mangent en Afrique. Mais les musulmans ici, par exemple en France, continuent leur jeûne. Ils n'ont pas le droit de boire, même pas avaler la salive toute la journée. Et ils mangent à 22h15. C'est l'heure qui est fixée de manière conventionnelle où le soleil se couche. Ils se réveillent à 3h du matin pour prier parce que c'est aux 4h du matin, c'est déterminé que c'est fini. Ils n'ont plus le droit de manger parce qu'à 4h du matin, le soleil se lève pendant l'été. Tu ne vas pas me dire que tu pries plus que certains moines tibétains qui sont retirés dans les montagnes, ils prient nuit et jour. Ce n'est pas les prières, bien-aimés, qui font que les diables tremblent. Surtout ceux qui se retirent dans les monastères pour prier, c'est eux qui auraient plus de victoires efficaces contre les diables. Mais je vous dis que là où il y a la parole de Dieu, la vérité, le diable ne peut pas résister. Car c'est par la parole qui est l'épée de l'esprit que nous détruisons les œuvres du diable. Alléluia. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, témoignant la parole de Christ, c'est ce que Christ a accompli. Alors, quand la parole sort, le diable vient guetter et il regarde la personne. Quand cette personne reçoit la parole, le diable ne vient pas voler parce qu'il n'a pas le pouvoir. Mais il remarque que si cette personne ne comprend pas la parole, le diable vient voler. Donc, on peut écouter la parole sans la comprendre. Et cette parole sera volée. Les gens croient que quand tu écoutes ta parole directement, tu as la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Écoute, le verbe entendre là, ce n'est pas percevoir le son. Le verbe grec qui est employé. C'est-à-dire entendre continuellement. Il y a des verbes qui ont des formes renforcées et continuelles. Comme Dieu avait dit en hébreu, le verbe tu mouves. Si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Littéralement, ça devait être traduit mourir, tu mourras. Tu mouves, le verbe mouf là, en hébreu, mourir. Mourir, tu mourras. C'est-à-dire que tu meurs et tu continueras à mourir. De même pour ces verbes qui est utilisé pour entendre. C'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on entend. Si on devait traduire bien, voici comment on traduirait ces versets. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, et de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu, c'est la parole de Dieu. Allez-y avec moi. Entendre trois fois, continuer à entendre, finir par comprendre ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. C'est quand tu comprends que la foi vient donc de la compréhension de la parole. Allez-y avec moi. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre. Si tu arrêtes d'écouter la parole, tu arrêtes d'aller à l'église, ta foi, tu ne parviendras pas à la connaissance de la parole, tu ne parviendras pas à la foi. Tu dois continuellement entendre. C'est pourquoi les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, les disciples de l'église primitive, mais parmi les quatre piliers, il y avait l'enseignement. Ils persévéraient, ils continuaient à entendre. Dans le cas, que la parole du Seigneur habite en vous abondamment. Et Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Médite, c'est ce qui arrive en compréhension, et quand tu comprends, tu dois les ressortir dans tes actes, ça doit se manifester. D'abord, pour que ça se manifeste dans tes actes, on doit voir ça dans ta bouche. Quand on voit ça dans ta bouche, on comprend que tu as compris, c'est dans ton cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Médite la parole jusqu'à ce qu'elle entre dans ton cœur. Quand elle remplira ton cœur, elle sortira de ta bouche. C'est pourquoi on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, elle doit entrer au fond de ton cœur jusqu'à remplir ton cœur et sortir par la bouche. Car c'est de l'abondance. La bouche parle de ce qui remplit le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand ça commence à sortir de ta bouche, la parole de la foi, c'est ce qui est écrit. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Quand c'est là qui est écrit, cette parole des Écritures, j'ai cru, j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Quand tu crois, ça se verra dans ta bouche et ça se transmettra également dans tes actes. Parce que ce qui est dans ton cœur, tu le manifesteras dans tes actes. Car Jésus a dit, c'est du cœur, de la bonne du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les adultères, les crimes, toutes ces choses-là viennent du cœur. C'est pour dire que la parole doit habiter en, en toi abondamment pour que tu parviennes à la foi. C'est pourquoi nous répétons ce verset Romains 17 une dernière fois. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend et de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu. Pas comprendre les fables, non. Les philosophies des gens. De ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. C'est là que naît la foi. Parce que quand tu ne comprends pas, avec la foi, Éphésiens 6 dit que Éphésiens 6, ça, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les prés enflammés du malin. Quand on a la foi, c'est alors qu'on peut arrêter le malin, les flèches du malin. Mais quand tu ne parviens pas à la foi, le malin vient, il a un accès libre et il vient ôter la parole qui a été semée. Parce que cette parole est une arme dangereuse. Comment le malin peut venir ôter la parole? Jésus-Christ nous a dit deux moyens. On parle des humains, on parle de ceux qui des animaux, mais Jésus nous a dit que c'est le diable. Comment le diable vient ôter la parole? Premièrement, Luc chapitre 8, verset 5 dit: la semence est tombée et les hommes sont venus la fouler aux pieds. Et les oiseaux sont venus la manger. Donc, il y a des hommes qui ont foulé cela aux pieds, ont écrasé, marché sur la parole. Premier élément. Pourquoi? Ton cœur est un terrain. Ton cœur, c'est le champ de Dieu. Si quelqu'un marche, il confond la rue. Là où les gens marchent, c'est dans la rue. Mais si quelqu'un marche dans la rue, il confond la rue avec les champs. Il marche et même piétine ce qui a été semé. Donc, les champs, une partie des champs devient le long du chemin. C'est quoi la conclusion? Ça veut dire que ce champ-là n'a pas été clôturé. Ce champ-là n'a pas été délimité. Il n'y a pas de différence entre la rue et le champ. Quand quelqu'un ne voit pas de différence en passant son chemin, il va marcher dessus. Même sur la chaussée, nous voyons la partie réservée aux cyclistes. Si une voiture qui vient te garer là, tu sais que tu es en infraction. La chaussée, nous partageons cela avec les piétons, avec les cyclistes, avec les automobilistes. Tu ne peux pas aller te dégarer sur le trottoir. Ce serait un problème pour toi. Mais quand on voit les gens, il ne voit pas de limite, il passe de l'autre côté et piétine la semence. C'est-à-dire que cette terre-là n'a pas de limite, n'a pas de délimitation. Comment est ton cœur? Ton cœur est ouvert à tout. De sorte que les hommes viennent et marchent dessus. Marcher dans la Bible, là déclare, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Et Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Marcher ou bien fouler au pied, c'est un signe, un symbole, synonyme de domination. Prendre possession ou bien dominer. Donc il y a des hommes qui dominent, qui prennent possession sur les cœurs. Tu dois savoir partout dans tous les pays, il y a des gens qui dirigent, il y a des gens qui dominent et il y a des gens qui sont dominés. Il y a des gens qui émettent des pensées et il y en a d'autres qui suivent ces pensées-là. Aux États-Unis, il y a des gens qui dominent et il y en a qui suivent, qui sont dominés. En France, il y a des gens qui dominent, qui sont des leaders, qui émettent leurs pensées, qui promulguent leurs pensées, qui promulguent les lois, qui décident, et les autres sont là pour subir les décisions, et ils sont là pour exécuter les décisions qui ont été prises. C'est pareil en Chine, c'est pareil en Russie, c'est pareil en Espagne, en Afrique, il y a des gens qui dominent. Il y a un groupe de gens qui pensent, qui raisonnent, et dans le monde actuel, il y a un groupe de gens qui dominent, qui divulguent leurs pensées. Ces groupes de gens-là possèdent tout. Ils vous disent ce qui est bon. Ils disent que dès aujourd'hui, aucun homme ne peut s'appeler homme d'une manière absolue, aucune femme. Avec la théorie du genre, on peut être homme mais avec un corps de femme. Ils disent cela et tout le monde dit oui et amen. Ils donnent les ordres aux professeurs d'université. Ils donnent les ordres pour Harvard. Ils donnent les ordres pour Oxford. Ils donnent les ordres pour Yale. Ils donnent les ordres pour Sorbonne. Tous ces professeurs-là disent oui et amen. Et ils éditent des livres qui parlent de ceci-là. Ils changent le cours des choses. C'est le même groupe de personnes qui vous disent ce qu'il faut penser. Tu penses que tu es intelligent parce que tu as étudié. Mais je veux te dire que ce que tes professeurs t'ont enseigné, c'est contrôlé par un groupe de gens. Ces gens qui appellent bien mal, qui appellent mal bien quand ils le veulent. Ces gens possèdent les médias. Quand ils disent que cet homme est mauvais, les diaboliques dans les médias, vous tous vous dites que vous êtes, cet homme est mauvais. On ne regardera plus ce qu'il a fait. Quand ils disent que cet homme est bon, même si c'est un criminel, ils lui donnent des policiers, ils lui donnent des prix de littérature, de journalisme, ils lui donnent des prix d'achèvement, de bonnes œuvres, peu importe. Le monde entier dira oui et amen. Leur parole est crue dans le monde comme parole d'évangile. Ce sont les gens qui foulent aux pieds la parole. Les gens la détruisent, la parole. Ils disent que le mariage n'est plus question de l'homme et de la femme. Homme, homme, ça peut s'appeler mariage. Femme, femme, ça peut s'appeler mariage. Et ce qu'ils décident, c'est ce qui s'applique aujourd'hui. Il y a une forme de terreur qu'ils appellent terrorisme. Une autre forme de terreur qui peut être plus atroce, plus victime. Mais quand ils disent que ce n'est pas le terrorisme, parce qu'eux, ils en sont les auteurs, mais personne n'a le droit d'appeler cela terrorisme. Le mal, c'est ce qu'eux décident. Quand la Bible dit que ça, c'est mal, eux viennent et ils écrasent cela dans ton cœur. Parce que tu as laissé ton cœur ouvert à tout ce qui se dit à la télévision. Quand la télévision parle, tu dis que c'est vrai, j'ai suivi à la télévision. Je te dis que CNN, TF1, BBC, Al Jazeera, whatever, c'est que c'est. Toutes ces chaînes, ces médias, ces journaux appartiennent tous à un même groupe de gens. Ils se retrouvent autour d'une tasse et boivent le thé, ils rigolent. Et ce qu'ils disent, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ils vous disent l'information. Ils choisissent quel pan de l'histoire à enseigner et quelle autre partie de l'histoire cachée. De sorte que vous ne connaissez même pas votre propre histoire. Ce qu'ils ont déclaré être véridique, c'est ce qui est enseigné. Ils décident de guerre et ils décident de la fin de guerre. Ils décident qui va régner et qui ne va pas régner. Ils font ce travail. Église, tu dois savoir. Jésus a dit, les gens qui foulent aux pieds, voici la révélation que le Seigneur te donne aujourd'hui. Es-tu un terrain et tu as livré ton cœur à tout ce que dit Internet, à tout ce que disent les journaux, à tout ce que disent ton gouvernement? Es-tu celui-là, si tu as la voix et voté au Parlement, donc c'est bon, c'est vrai. Moi, si je dois m'appliquer, c'est ce que je dois faire. Es-tu une personne qui a laissé ton terrain dans la rue? As-tu délimité le terrain de ton cœur? As-tu délimité pour que le passant ne vienne pas écraser la semence de Dieu qui est semée en toi? Si tu n'as pas mis de délimitation, tu crois tout ce que tu vois sur Facebook, sur YouTube, sur Google, peu importe les informations que tu sois prends sur Internet, tu prends cela pour vrai et tu viens contredire même ce que la Bible déclare, ce que la Bible annonce. Je te dis que ces gens-là qui écrasent, au-dessus d'eux, il y a quelqu'un. Nous voyons des hommes qui foulent le pied, mais Jésus nous a livré un secret. Il a dit, quand quelqu'un écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève la parole. Je vais donc t'annoncer que derrière ces gens-là se cache le malin. Le diable. Ces gens travaillent pour le compte du diable. Nous allons arrêter cela. Par ici, notre enseignement d'aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine, le mercredi à 20h, sur le deuxième élément qui vient intervenir. Tu auras la révélation pour savoir les pieds qui foulent la semence, c'est les hommes qui contrôlent, qui dominent les pensées de ce monde, les courants de pensée. Il y a des courants de pensée qui sont diaboliques comme le nazisme. Le nazisme a tué des milliers de personnes. Ce sont des courants de pensée diaboliques. Mais je vous dirais que Hitler a été élu. Il a été plébiscité par son peuple. Il ne s'est pas imposé de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des courants de pensée que nous acclamons, que nous élevons, mais qui sont diaboliques, sataniques. Derrière cela, il y a Satan. Et ça fait des milliers de victimes. Nous continuerons avec vous cet enseignement le mercredi prochain, au même endroit, www.templedediu.com. Vous cliquez sur la rubrique « Radio ». Et vous nous suivrez en direct. Je crois qu'on mettra à disposition, je parle avec les régisseurs, je parle avec ceux qui travaillent sur le site web designer, pour que vous puissiez écrire vos questions ou bien vos avis sur cet enseignement. Si vous avez aimé quelque chose dans cet enseignement, nous voulons avoir votre retour, votre feedback. S'il y a des interrogations, des questions, envoyez, écrivez. Quelque chose que nous aimerions que nous puissions expliquer plus en profondeur avec des versets bibliques à l'appui. Allez-y, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Docteur, ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Ça veut dire simplement enseignant. Je suis un enseignant, Dieu a donné 5 ministères. Mon ministère, c'est le ministère d'enseignant. Donc, je ferai le nécessaire pour remplir mon rôle, vous enseigner et vous communiquer les révélations de Dieu Si vous posez des questions, c'est avec joie que je vous répondrai. Plus tard, je crois, si possible, nous aurons l'accès même en direct. Si vous voulez me contacter, je suis en France. Vous pouvez appeler par mon numéro, c'est le numéro direct 0033 652 13 38 45. Je répète, 0033 652 13 38 45. Si vous appelez à partir des États-Unis ou du Canada, vous ne faites pas 00, vous faites 011 33 652 13 38 45. Ce numéro est également sur WhatsApp et bien sur Viber. C'est votre ami le docteur Samuel El Wabantou, le pasteur responsable fondateur des églises La Maison du Roi Centre Chrétien, à Rouyn dans la région parisienne et puis à Arlington dans la région de Dallas aux États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été nombreux à suivre cet enseignement. Partagez cela autour de vous. Que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain, même lieu, même heure, www.templedediu.com, rubrique radio. Que Dieu vous bénisse. Votre Dieu, que Dieu vous bénisse. Votre Dieu, que Dieu vous bénisse. Votre Dieu.